Vous recherchez une formation vraiment enrichissante? Les Compagnons du Tour de France vous invitent à leur journée portes ouvertes. Avec des formateurs passionnés et des centres dans toute la France, les Compagnons du Tour de France vous proposent des parcours d'excellence dans les métiers d'art et du bâtiment pour les jeunes dès 14 ans et des formations professionnelles pour les adultes. Pour connaître toutes les dates des portes ouvertes près de chez vous, rendez-vous sur compagnonsdutourdefrance.org. Les Compagnons du Tour de France, la transmission des savoir-faire. Vous écoutez
RMC. RMC, l'after, intégrale Coupe du Monde.
La libre antenne.
Il est minuit 1, on est déjà à la bourre, ça commence bien, t'es dans la libre antenne, tu es sur RMC, on t'attend 32-16, ils sont deux ce soir en plus au standard, donc vous faites deux fois plus nombreux à appeler, il y a Adri, il y a Max qui sont là, en plus ils foutent rien depuis tout à l'heure, donc vous appelez au 32-16, vous réagissez, c'est la libre antenne, on est là pendant toute la Coupe du Monde, de minuit à 1h, vous réagissez sur ce que vous voulez, si c'est du foot, si c'est la Coupe du Monde, c'est mieux, mais parfois, rarement, il arrive qu'on ait quelques digressions, il y a eu des beaux matchs aujourd'hui, hein. Il y a de quoi dire, hein. Victoire de la Suisse 1-0 face au Cameroun, 0-0 entre l'Uruguay et la Corée du Sud, moi perso je me suis endormi devant ce match. Le Portugal a battu le Ghana 3-2, caca culotte. Et puis le Brésil s'est imposé ce soir 2-0 face à la Serbie. Je vous rappelle également qu'il y a des box Coupe du Monde à gagner avec le bonmaillot.com. Le principe, il est top. C'est-à-dire que tu donnes ta taille, on t'envoie une box chez toi et c'est un Kinder surprise. C'est-à-dire qu'il y a un maillot dedans, mais tu sais pas l'équipe que tu vas avoir. Voilà, donc t'appelles au 32-16 et le meilleur auditeur du soir, eh bien, il sera sélectionné par nos Twitchers parce qu'on est comme chaque soir avec Sacha Oulému. Sacha en l'occurrence. Bonsoir Sacha.
Bonsoir.
Ça va ou quoi?
Ça va et toi?
Alors rappelle, comment les gens
font pour me suivre? Twitch.tv/RMC Sport. Sinon vous téléchargez l'application Twitch, vous tapez juste RMC Sport, vous suivez la chaîne, vous parlez dans le chat, il y a des sondages, vous répondez, prenez le contrôle.
Voilà, c'est top. T'es pas venu seul aujourd'hui, hein?
Ah non, je suis venu bien accompagné.
Perja est avec nous également, streamer Twitch.
Ouais, bonsoir.
Youtubeur, ça va?
Ouais, ça va et toi?
Ouais, écoute, ça va. Écoute, encore un supporter du Portugal. Je sais pas ce que tu me fais, Sacha.
C'est que des Portugais.
Non, mais c'est pas moi qui invite, c'est lui. Hein. C'est... Bah, moi, ouais, perso, j'invite personne.
Il y a une propagande, il y a une propagande en cours.
Bon, ça va, Perja?
Ouais, ça va très bien. On a passé une bonne journée devant le match. On a eu très très chaud sur Portugal-Ghana, mais. Heureusement, au moins, on a validé les 3 points, c'est le plus important.
Ouais, ouais. Putain, ça commence bien. Ça commence direct par un poncif. Guillaume, supporter de la Suisse. C'est vrai que chaque soir également, il y a un afterien, un membre de l'after qui est. Un auditeur de l'after qui est avec nous. Et ce soir, c'est Guillaume qui est avec nous, supporter de la Suisse. Salut Guillaume.
Salut, bonsoir à tout le monde.
T'as pas d'accent? Déjà,
non.
Je suis déçu.
Non.
Bah, comment ça se fait? Explique-nous.
Ouais, faut l'accent alsacien, l'accent breton, dis-moi.
Non, bah, l'accent suisse en l'occurrence. T'es supporter de la Suisse. Après, tu peux prendre l'accent d'une région si tu veux.
Non, non, pas
comment
d'accent.
Ça se fait que t'es supporter de... Mets-toi bien dans le micro.
Ouais, pardon, excuse-moi.
Pourquoi t'es supporter de la Suisse? Ça vient d'où?
Que je suis suisse depuis ma naissance.
C'est une bonne raison,
c'est
ça.
Une
ouais.
Bonne raison, ça. Hein.
Et t'habites où du coup?
Ah non, j'habite dans l'Oise, Chantilly.
Ce qui est vachement logique du coup.
Oui, c'est
en
normal.
Même temps, fiscalement, c'est beaucoup mieux, il paraît.
Il sait pas mal.
Ouais, c'est mieux, hein, Chantilly. Ouais. Et supporter de qui du coup?
L'OM.
Ah ouais, c'est, on est encore plus logique. Hier, on avait Hicham qui était supporter du Real, du Maroc, de la France. Et c'était quoi l'autre déjà? Et de l'OM aussi, voilà. Et pas de club suisse.
Ah si, j'aime beaucoup les Grasshoppers de Zurich. Ah. Mais bon, ça a été dur. Ouais. Après, la Winter Tour vient de. Qui est la...
Ah, t'es plus Grasshopper qu'FC Zurich?
Bien sûr.
On a fait un podcast After Galaxy sur le FC Zurich. On raconte la rivalité. Mm-hmm. En gros, le FC Zurich, c'est le club populaire. Grasshopper, c'est le club des Bourges. Mm. Ah, je vois, monsieur.
Excusez-moi.
Supporter du Grasshopper quand même alors?
Oui, un petit peu, mais après Winterthur, la ville dont ma famille est originaire, vient de remonter en Super League, donc ça c'est top. Et après, comme tous les Suisses, le FC Bâle qui a fait le bonheur en Coupe d'Europe de la Suisse.
On vous attend au 32-16 bien entendu si vous êtes supporter de la Suisse également. Tiens, ça commence à appeler. Adrien et Max vous attendent comme chaque soir bien entendu. Par quoi vous voulez commencer, tiens?
Bah, moi j'ai lancé un sondage.
Vas-y.
Quel a été votre match préféré du jour?
Je pense qu'Uruguay-Corée du Sud, il y a moyen qu'il gagne pas.
Eh ben, étonnamment.
Arrête tes conneries.
Et il y a quand même un mec qui a voté.
Ah oui,
pour.
Un mec qui a voté. Attends, il y a combien de votes? Tout est relatif. Hein,
ouais, mais... non, mais en fait, c'est bon, Portugal-Ghana qui est devant 51% avec une trentaine de votes, juste devant Brésil-Serbie.
Eh ben, tu sais quoi, supporter du Portugal, du Ghana, du Brésil, de la Serbie, de la Suisse, du Cameroun, de l'Uruguay, de la Corée du Sud, de n'importe qui, tu nous appelles au 32-16. On va commencer par ça alors, puisque pour l'instant, les gens votent plutôt Portugal-Ghana. Mm-hmm. C'était l'affiche de 17h. Tu disais Perja, toi qui es supporter du Portugal d'ailleurs.
Bien sûr.
Et de qui d'autre?
Du PSG.
D'accord. Non mais c'est pas la peine de. Ok. Hein, c'est pas la peine
oui,
de.
Oui, non
raconter,
mais il
hein.
Y a la fameuse question quand t'es au Portugal de Benfica, Sporting ou Portinguist. Non, moi j'ai demandé à mon père. Il m'a dit je suis de Benfica. Du coup j'ai fait bon bah Benfica. Puis j'ai appris que
c'est souvent comme ça que ça se passe.
Ouais.
J'ai appris qu'il trompait ta mère et du coup.
Non, j'ai appris que c'était un peu qu'il connaissait pas trop les joueurs de Benfica non plus. Donc.
Ah ouais.
Ouais.
Moi tu t'es dit laisse tomber le foot portugais.
Mais du coup moi j'ai eu la réaction de Perja. Pour le premier but du Portugal, mais toi, comment est-ce que tu as réagi sur le but de Ronaldo?
Moi, très sereinement. Franchement, de façon très sobre.
Ah, apparemment, on a l'extrait.
Oui, apparemment, ils m'ont filmé à mon insu, ouais, imagine.
C'est parti.
Ah, voilà.
Oh, c'était ça,
vous. Qu'est-ce qu'on leur met au Ghana?
Ça commence sans
mais
bon,
c'est ça, bon.
Alors, vous savez que Sacha est un excellent imitateur, vous le savez depuis hier, c'est Sacha qui l'imite. Avec tout le respect.
J'en ai des
Ghana.
Nouvelles en stock.
Putain, j'allais oublier.
Il a passé la journée à faire des. Putain, tu disais comment déjà?
Les amis.
Voilà. Bien sûr, Thierry Roland. Vous savez que dans cette émission, la tradition, faut faire une imitation.
Oh non.
Ah bah, si. Guillaume, tu sais imiter qui? N'importe qui. N'importe qui.
Je vais réfléchir, demande aux autres.
Non, bah les gars, arrêtez de réfléchir, enfin.
Si tu veux, je peux lancer.
N'importe qui, un personnage de dessin animé, un. Vas-y alors.
Mon préféré, c'est Hamza Ramani.
Il est très très bon, le Gilbert Bribois.
Ah, c'était Gilbert Bribois,
ah, pour moi c'était Maïté.
Moi c'était Maïté.
Ah, moi c'était Maïté.
Nicolas Dieu, le prod, il a
même. Moi j'ai plongé.
Pour moi c'était Maïté. Vas-y, Perja.
Et quand tu prends le ballon et qu'il va sur le côté.
Il revient souvent quand même,
Bernard Fonseca. C'est le plus simple à faire en vrai.
Non, au contraire, autant tactiquement que techniquement.
Non, c'est à chier. Stop. On arrête là. Le match du Portugal, victoire 3-2. On rappelle, alors Cristiano Ronaldo est entré dans la légende, premier joueur de l'histoire à marquer sur 5 coupes du monde différentes. Il pleurait pendant l'hymne national, voilà, pas mal ont insisté là-dessus. Le Portugal qui a mené 1-0. Il y a eu un partout, il mène 3-1, et puis les 10 dernières minutes, ça devient le grand n'importe quoi, il s'effondre un petit peu. Fernando Santos en conf de presse après le match, qui n'arrive pas trop à l'expliquer. Comment tu l'as vécu, ce match?
C'est un peu toujours la... Enfin, moi, j'ai le ressenti à chaque fois, c'est souvent la même chose. Genre, tu peux gagner le match facilement, mais tu as envie de te compliquer la tâche. Genre, ça marque au début, il y a beaucoup de matchs où c'est comme ça, où ça met le premier but, ensuite il y a un moment de vide, un moment de relâchement, et t'encaisses. Tu sais, t'as eu la même chose contre l'Espagne en Ligue des Nations, où pourtant on pouvait passer facilement. On dominait,
c'est
en tout
pareil,
cas.
Ça se joue dans les dernières minutes.
Voilà, ouais, dans les dernières minutes, ça prend un but, c'est un peu souvent la même chose. Va falloir quand même hausser le niveau, c'est souvent des petites erreurs défensives un peu qui du coup pêchent. Mais
tu penses à qui notamment? Enfin, d'ailleurs, est-ce que tu penses à un joueur? Ouais, il a pas été bon ce soir.
Jean Cancelo, c'était vraiment.
Il y en a beaucoup qui sont tombés sur Danilo, le Parisien. Moi, je trouve que les critiques sont assez sévères, juste parce que sur le deuxième but, le ballon lui passe entre les jambes. Mais il a pas fait un mauvais match.
À vitesse réelle, je pense que c'est différent.
Mais c'est pas une erreur. Je veux dire, le ballon, il arrive. Tu vois, il le foire, il lui passe entre les jambes, ça arrive, tu vois.
Ah oui, bien sûr.
Non, et après Danilo, c'est toujours facile. C'est-à-dire qu'il est dans une équipe, le PSG, qu'on voit souvent, et donc dès qu'il rate quelque chose, on attaque tout de suite un petit peu plus. C'est plus facile.
Tu l'as vu le match ou pas, Guillaume?
Moi, j'ai vu la première mi-temps et ensuite j'étais sur le terrain d'entraînement, donc j'ai pas vu la fin. J'avais quelques joueurs.
T'as vu mieux alors, parce que
j'ai vu quelques joueurs d'origine portugaise qui étaient stressés, qui n'ont pas commencé l'entraînement avant.
Ah ouais,
sinon, quand je leur ai dit que ça a sonné dans ma poche, j'ai dit 3-2, allez, venez sur le terrain.
C'est bon, ça finit. On va accueillir Lionel qui nous a appelé au 32-16. On vous attend dans cette libre antenne, bien entendu, pour réagir sur ce que vous voulez. Supporter du Portugal, salut Lionel.
Voilà, bonne nuit Nico, bonne nuit à tous.
Je sais que ça fait longtemps que tu attends Lionel, alors merci Lionel d'avoir attendu. Merci d'être avec nous.
Je vous ai écouté attentivement, et j'écoutais aussi l'after. Et je t'avoue, Nico, que je t'ai trouvé assez clément envers Fernando Santos, parce que tu disais que...
Alors, on dit que je critique tout le temps, donc...
En termes collectifs, tu disais qu'on avait vu pas mal... Enfin, on avait vu certaines choses sur les derniers matchs. Justement, parlons-en des derniers matchs. Contre l'Espagne, ça a été une catastrophe.
Non, je suis pas d'accord. Les 10 dernières minutes, les mecs, c'est-à-dire, ils jouent à la baballe, ils lâchent le match. Mais tu sais, Santos, moi, ce qui me rend ouf, c'est que Santos, en conf de presse cette semaine, il a expliqué quel était le problème du Portugal. C'est, en gros, on a des trous d'air. C'est-à-dire que, on domine le match, on est censé gérer, et on n'y arrive pas, et on s'effondre, et même lui, il sait pas l'expliquer. Et c'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais en termes de jeu, moi, le match contre l'Espagne, je ne les ai pas trouvé catastrophiques, les Portugais. Les 10 dernières minutes ont été mal gérées, en revanche, je suis d'accord.
Pas catastrophique. Moi, le problème, si tu veux, c'est dans l'approche. C'est-à-dire que dans l'approche, tu commences le match pour tenir le nul.
Ça, on est
d'accord. Tu te fais punir, c'est le coup classique. Contre la Turquie, c'est passé. Dans le jeu, c'était pas trop mal, mais faut pas oublier qu'il y a eu un trou d'air, et que Bourak, il a un pénalty qui rate.
C'est vrai.
S'il le rate pas, on va en prolongation, et après, on sait pas ce qui peut se passer. Mais bon, ça, c'est le passé, n'en parlons plus. Ce soir, bon, moi, quand j'ai vu la compo à 16h, je me dis, c'est quand même assez bizarre. Ça change tout le temps. D'un match à l'autre, on a soit William au milieu avec Ruben Neves, soit là, on avait Ruben Neves tout seul, Danilo en charnière. Danilo, s'il est pas en charnière, il est au milieu. On comprend rien. À chaque fois, t'as une nouvelle compo et une nouvelle animation au milieu de terrain. Les mecs, ils ont jamais le temps de jouer ensemble, de combiner, d'apprendre à jouer ensemble, à se trouver. Il change tout le temps. Il cherche des formules, il cherche des équipes. C'est-à-dire qu'il sait pas quoi faire de son effectif. Donc à partir de là.
Après on en a parlé un peu hier. D'ailleurs, c'est marrant, ce matin, sur les trois quotidiens sportifs, il y en a pas un qui avait la même compo probable. La diff, Lionel, c'est que il a le choix, Fernando Santos. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il a tellement le choix qu'il a des problèmes de riche, si tu veux.
Oui, il a le choix. Après, il y a un autre problème. Bon, là, il l'a sorti à la 88e. D'ailleurs, vous n'en avez pas parlé, mais les trois changements à la 87e, ouais. 88e, c'est catastrophique. On fait jamais ça. En plus, il sort les trois joueurs de devant. Désolé, mais quand on est dans une stratégie de garder un score, les trois de devant, c'est la première ligne de défense.
C'est donc, un mauvais message envoyé à chaque fois.
Tu fais rentrer trois joueurs comme ça à la 88e, tu te fais punir 30 secondes après, t'encaisses.
Et son premier changement, on rappelle, hein, il fait sortir Ottavio, ouais. Donc, qui déjà joue pas vraiment à son poste, il le met dans cette espèce de poste de faux ailier pour faire rentrer William, et le but, il vient juste derrière en plus, hein, l'égalisation du Galin.
C'est ce qu'ils disent tous dans le chat. C'est un changement pour resserrer, mais tu prends derrière.
En faisant abstraction de ce match, Cristiano, il sort jamais. Ça, c'est un problème aussi. Parce que parfois, on va avoir besoin d'un mec qui court un peu plus, qui va apporter peut-être de la vitesse sur le côté. Je pense à Lien, mais ça peut être un autre profil. Cristiano, il sort jamais.
Et même Jean-Félix, hein, il sort tard, hein, parce qu'il n'a pas été bon.
Jean-Félix, il sort tard. Ouais. Mais Cristiano, sur les derniers matchs, il sort jamais. Donc, au bout d'un moment, il va falloir qu'il fasse quelque chose, qu'il se remette en question profondément, ou alors qu'il laisse la place à quelqu'un d'autre.
Ça m'intéresse d'avoir votre avis sur Ronaldo, parce qu'il y a ce fameux sondage qui a fait beaucoup de bruit là, ces derniers jours au Portugal, là, de la chaîne CMTV. Il y a 40% des Portugais qui estiment que Ronaldo ne devrait pas être titulaire à la Coupe du Monde.
Moi, dans ma famille, vraiment, la majorité, c'est.
Il joue.
Ouais, en mode, il aspire un peu trop l'attention sur lui, l'équipe joue mieux sans, etc. Ça reste un Cristiano Ronaldo qui peut être toujours décisif à tout moment, même si là, sur ce match, pour le coup, t'as une première occasion où il loupe son contrôle et il aurait pu faire beaucoup mieux. T'as un moment, cette tête où, si c'était il y a 4 ans, il la mettait, la tête. T'as beaucoup un peu de moments où, en fait, quand t'es neuf, t'as quelques occasions un peu de clouer, un peu de mettre le score. Et là, ces occasions, il les a pas saisies. Et sur Joao Félix, typiquement, il manque de physique, en fait. C'est vraiment quelqu'un qui a besoin d'espace, qui a besoin de.
Ouais, physiquement, il était cuit, ouais.
Ouais, il était cuit rapidement. Et qu'en plus, t'es contre un bloc bas et que t'as déjà pas le physique un peu pour jouer au contact des défenseurs du Ghana, ça devient compliqué, même si, bah, on l'a vu, dès qu'il a eu l'espace, bah, il a planté le but et ça a été efficace.
T'en penses quoi de Ronaldo, Guillaume?
Pour moi, Ronaldo, c'est à l'image de Messi, c'est parmi les meilleurs joueurs de l'histoire. Donc le problème, c'est qu'il est presque plus important que la sélection, malheureusement.
On l'a vu ces derniers jours, d'ailleurs.
Voilà, c'est ça qui est terrible. Donc, comme on dit, il vient de résilier son contrat avec Manchester United. Et c'est impossible pour le sélectionneur d'être au-dessus de lui et de le faire sortir. C'est-à-dire que Ronaldo, il sera plus en équipe du Portugal quand il décidera de plus y être. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup qui disent « ça va être sa dernière Coupe du Monde ». Je suis même pas sûr.
Si, alors lui, il a dit « je serai à l'Euro ». Il a pas dit « j'ai envie hein. ».
Oui.
Il a dit « je serai ». Donc il a décidé. En revanche, pour la Coupe du Monde, je pense que
lui, il voulait faire encore 3 ans.
Ouais, mais il a 41 ans, ça devient vénère. Hein,
mais,
autant
oui, bien sûr. Mais comme on dit, d'autres l'ont fait, d'autres ont marqué. Hein.
Donc ouais, après, il n'y a peut-être pas la concurrence qu'il y a aujourd'hui.
Mais c'était pas non plus des mecs comme Ronaldo. Il a un très haut niveau encore.
Pas en tant que titulaire.
Évidemment. Voilà. Ça, j'espère qu'il le comprendra, et pour le Portugal et pour lui, qu'à un moment donné, il faut aussi venir faire un petit peu banquette.
Vas-y, Lionel.
Il y a quelque chose de révélateur tout de même. On n'en a pas parlé, mais Diogo Costa, c'est un mec, depuis le début de saison à Porto, il est exceptionnel. Il n'a pas fait une erreur. Moi, j'étais même là à fanfaronner auprès de mes amis. Il est top 3 des gardiens au monde. Si un mec comme ça, sur un match avec la sélection, le premier match, depuis, parce qu'avant, c'était Rui Patricio qui avait joué le dernier, le gars, il fait une erreur directe comme ça, une erreur, mais c'est vidéo gag.
On rappelle, c'est l'une des toutes dernières occasions. En gros, pour ceux qui n'ont pas vu le but, d'ailleurs, vous pouvez aller sur rmcsport.fr, il y a les images, mais en gros, il va pour faire un dégagement, donc il met le ballon au sol et il voit pas qu'il y a un Ghanéen derrière lui, qui heureusement, pour les Portugais, au moment où il veut récupérer le ballon, en fait, il glisse, il se casse la gueule et du coup, Diogo Costa récupère la balle. Mais
c'est terrifiant, faut communiquer. Ouais. Genre, on peut pas faire ça en Coupe du Monde.
Et en quoi c'est révélateur, Lionel, du coup?
Alors, moi, je trouve qu'il y a quand même un manque de maîtrise des événements et ça s'est vu sur tous les matchs précédents, notamment l'Espagne, où tu as des trous d'air. Et ça, je te donne 100% raison, Nico, vous l'avez dit. Il y a des trous d'air, il y a des moments d'absence. Et ça dure parfois 3-4 minutes, mais ça suffit pour encaisser. Et là, tu es à 3-2, l'arbitre, il va siffler parce qu'il dégage, l'arbitre siffle. Hein. C'est la dernière action. Comment il peut faire un truc comme ça? Personne lui parle en plus.
Ouais, c'est le problème, c'est que personne lui dit.
Derrière lui, et personne lui parle. Moi, je trouve que c'est révélateur, surtout sur un mec qui a été irréprochable depuis le début de la saison, en club.
Juste un mot quand même également sur l'un des faits du match, hein, parce qu'on parlait du but de Ronaldo qui était sur péno. Alors Otto Addo, hein, le sélectionneur du Ghana, a dit après le match, quand quelqu'un marque, bravo, mais là ce fut un cadeau spécial de la part de l'arbitre, a-t-il dit. On est d'accord, péno ou pas péno?
Très gentil.
Il
n'y a pas péno, on est d'accord.
Ah, il est très très gentil.
Ouais, dit il n'y a pas péno.
Ah, il est gentil.
Il n'y a pas péno, dis-le.
C'est Ronaldo et il le joue bien.
Bon, arrête, connerie, Guillaume, merde, c'est qui le Portugais
suisse?
Bah non, au contraire.
Mais non, c'est ce que je viens de dire, justement. C'est-à-dire, si c'est pas Ronaldo, il n'y a pas pénalty. clairement. Et s'il le joue pas aussi bien, il y a pas penalty. Il y a deux choses qui font qu'il y a penalty, parce qu'il y a duel de l'épaule, ils sont au même endroit.
Ok, mais donc objectivement, il y a pas penalty.
Évidemment,
voilà.
Ah non, mais ça, on est d'accord.
Ouais. C'est, c'est selon l'interprétation de l'arbitre.
On en parlera tout à l'heure, mais s'il y a un pénalty comme ça pour la Suisse, je signe tout de suite les deux pieds sur la table, on est d'accord. Voilà.
Si ça avait été un pénalty du Ghana, c'était un scandale.
On est d'accord, tout à fait, c'est ça, voilà. Vas-y, Lionel.
Non, je disais, c'est litigieux, mais après, il n'y a pas d'erreur manifeste, donc le VAR n'intervient pas. Moi, je trouve que.
Non, mais le plus scandaleux, c'est surtout ça. C'est-à-dire que l'assistance vidéo, c'est-à-dire que le gars, il doute pas du tout, l'arbitre. Américain, c'est-à-dire lui, c'est dans sa tête, il y a penalty. Et d'ailleurs, c'est ce qui a rendu fou. C'était Ayew à la fin du match qui a dit ça en flash interview. Il a dit, mais en Alvar, ça sert à quoi? Et pourquoi il va pas regarder? Pourquoi il va pas checker?
Alors, il y a pas un truc. J'aimerais bien qu'on me corrige si jamais dans le chat Twitch ou même ailleurs, genre des arbitres en termes de notation par rapport à la FIFA ou des trucs comme ça, ou s'ils vont consulter la VAR, ils perdent des points ou des. Il y a pas une sorte de notation comme ça au niveau des arbitres sur.
Ils ont un permis aussi.
Non, mais c'est une vraie question du coup.
Non, je sais pas. C'est possible parce que ouais, en Ligue 1 c'est comme ça donc.
En Ligue 1 ouais, en tout cas je sais pas si pour la Coupe du Monde.
Peut-être que ça peut jouer ouais.
Mais en vrai j'ai l'impression que quand on parle de ce match-là, vous mettez en évidence un petit peu le Portugal qui a pu faire des erreurs, qui n'était pas au top, qu'on attendait peut-être plus haut, mais on trouve aucun mérite au Ghana genre du tout.
Bah dans le jeu c'était pas ouf hein, non plus.
Non mais c'était pas ouf, mais bon ils viennent avec le couteau entre les dents, ils mettent de l'intensité au début du match, ils arrivent quand même à planter des buts, ils mettent le doute aux Portugais, enfin tu peux quand même avoir
recorder ça. Pour moi c'est plus en face les Gèches qui génèrent pas plutôt que les Ghanéens, tu vois, qui sont ils font pas un match dingue les Ghanéens franchement.
Non bah après c'est la
seule équipe. Ça veut pas dire qu'ils ont pas de mérite.
Oui, non mais on se comprend. Non mais je dis pas qu'ils ont révolutionné le foot, que c'était incroyable, ils ont transcendé le truc, mais bon ils ont
eu la capacité de les faire douter.
Ils ont eu cette grinta et ils sont allés au bout du truc, tu vois, c'était pas beau et c'était pas très souvent.
Les Ghanéens, à chaque fois que je les vois jouer, les Ghanéens, j'ai l'impression que c'est les Tongiens du rugby qu'on voit souvent. C'est des brutes épaisses. Ils sont costauds physiquement. C'est un truc de fou.
Ça t'excite de fou, déjà.
Mais le problème, c'est que ça tient 20 minutes en première période. C'est fort à la fin parce que physiquement, c'est très costaud. Mais à un moment donné, à chaque fois, il y a un trou d'air. Ça ne tient pas la distance physique. Ils sont très puissants. Tu sens qu'il peut y avoir justement des accélérations, etc. Et finalement, le joueur qui met le plus la misère au milieu, c'est le petit André Ayew, qui j'ai l'impression qu'il a 55 ans depuis que j'entends parler de lui.
Ah, c'est ouf aussi.
Mais
il est incroyable.
C'est un truc de fou. Ouais.
Pas penalty, 78% dans le chat.
Ouais, bah, tu m'étonnes. Oh, Lionel, merci d'avoir été avec nous. Hein.
Dont 75%
ouais, merci, de Portugal.
Ouais, bah, tu nous as appelé d'où?
Le Valois. Je suis pas très loin.
C'est bien. Et t'es d'où au Portugal?
De Mergas.
Ah, bien sûr. Bisous à Lionel et on te souhaite bonne chance pour essayer de gagner la box de Noël, lebonmaillot.com. Merci Lionel, à très vite.
Merci Nico, ciao. Salut.
Jusqu'à 1h, c'est toi qui fais l'émission. Appelle le 3216.
C'est l'after libre antenne sur RMC.
Et Adrien Max vous attend au 32-16, vous réagissez, on est ensemble pendant toute la Coupe du Monde jusqu'à 1h du mat. On est toujours avec Sacha. Alors ça réagit un peu sur la chaîne Twitch.
Ouais, attendez, j'étais
parce en train que t'écris un mail là en même temps.
Non, j'étais en train de noter le nom de Lionel pour le sondage de la fin, pour le meilleur auditeur.
T'as bien raison, c'est bien.
Jordan Ayew devait être titulaire dès le début. Il y a eu pas mal de trucs. On demande beaucoup.
Souvent dès le début, hein, tu feras attention, mais
c'est pas faux. Ça demande beaucoup Jardim en tant que sélectionneur.
Ah ouais?
Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez, du coup. Je me retourne vers.
Bon, moi, je l'aime bien après, mais c'est pas le premier blaze qui me viendrait, moi, mais.
Moi non plus.
Tu prendrais qui, toi, tiens, pour la Presantos Perge?
Je t'avoue que j'en ai vraiment aucune idée. Je sais que le mec qu'on aurait voulu tester au moins, ça aurait été un Mourinho, mais je pense que ça reste un football tout aussi un peu passif par rapport à Santos. Quoi.
J'aimerais
un sélectionneur qui peut faire plus de jeux avec l'effectif qu'on a.
Toi, tu verrais
qui? Moi, il y en a qu'un, c'est Mourinho. C'est-à-dire, mais plus que, je trouve pas passif, il est pragmatique, Mourinho. C'est-à-dire que s'il a les joueurs, il fait jouer son équipe.
Ouais, mais ça, le mot pragmatisme, non, mais ça, tellement souvent avec Santos.
Mais ça, Deschamps,
il a gagné, hein. Il a gagné, on peut pas jouer.
Je suis d'accord, mais c'est-à-dire que Mourinho, il obtiendra quand même le meilleur de ses joueurs, peut-être pas pendant 20 ans. Mais pendant 4, 5 ans, faire deux compétitions, un Euro, une Coupe du Monde, il peut tenir, il peut aller loin.
Moi, je veux Jesus. Ça du demande... jeu de la folie, un mec complètement taré, il parle n'importe comment. Mais si, sérieux, mais
c'est attends, ça demande
dans le marché. Sur le marché, il y a Domenech. Hein.
Ça demande
mais moi, j'adore, c'est ça, un jeu totalement. Tu sais que ça m'arrangerait à mort. Il y a moyen qu'ils me prennent comme adjoint à Montréal.
Il y a du Hervé Renard, il y a du
Concessão.
Sergio Conceição, mais qui est assez, lui, pour le coup, un vrai résultat.
C'est et Amorim aussi, qui revient dans le chat.
Amorim, c'est vrai que c'est la grosse hype du moment. Tiens, on va évoquer un autre match, le match du soir. Je vous rappelle que le Brésil s'est imposé 2-0 face à la Serbie. Doublé de Richarlison. Des petites infos qui concernent Neymar. Vous savez qu'il est sorti sur blessure. Alors, il était en pleurs, Neymar. Il a été filmé. Il y avait une camiso brésilienne de Globo sur lui. Il a une entorse, hein. Il souffre d'une entorse. Le staff médical s'est exprimé. Ils vont l'observer pendant 24-48 heures. Il n'y a pas d'examen complémentaire de prévu. Pour l'instant, ils vont l'observer. Donc, Tite a dit en conf quand même, je suis sûr et certain qu'il va continuer la Coupe du Monde. Donc, à suivre. Et on va accueillir Max, supporter du Brésil, qui est avec nous en direct dans la libre antenne de l'After. Salut Max.
Salut Nico, salut à toutes et à tous.
Salut. Comment ça va Max?
Bah écoute, ça va plutôt bien. On a fait petite soirée à la brésilienne pour regarder le match avec plein d'amis brésiliens, tout ça.
Picagne.
Donc, voilà. oui, c'est ça, des coxinhas, des
caipirinha. Consommer avec modération.
Ouais, non, mais tu vois le jerrycan, c'était un peu ça l'idée. Voilà,
c'est avec modération.
C'était un petit jerrycan.
Oui, c'était vraiment un mini.
Comment ça, t'étais quoi, t'es brésilien toi, Max?
Alors moi, je suis marié avec une brésilienne en fait, et j'ai vécu au Brésil.
Où ça?
À São Paulo.
Bah magnifique, tu parles bas. Et alors donc tu dis, on t'es supporter du Brésil du coup?
Bah forcément, j'ai une affinité. Le Brésil, c'est mon pays d'adoption un petit peu. C'est comme ça que j'aime l'évoquer. C'est une culture qui m'a bien apaixonné, comme on dit. Hein. Moi, je suis tombé complètement amoureux de cette culture. Voilà. C'est une culture qui m'a accueilli aussi à bras ouverts, dans lequel je me suis senti formidablement bien. Et donc forcément, il y a cette affinité avec le Brésil, avec la sélection, le football brésilien, etc. Donc voilà, forcément, il y a la famille aussi là-bas qui suit beaucoup le foot. Donc,
et supporter de qui au Brésil, du coup?
Alors, moi, je n'ai pas spécialement un club au Brésil.
Et ta belle famille?
C'est São Paulo.
D'accord, São Paulo FC, oui. Ou
au Morumbi.
Bien sûr.
Absolument.
Alors vas-y, ce match 2-0 là, du soir là.
Et bah écoute, ce soir non, ouais, moi j'ai trouvé que donc la première période forcément, on l'a tous vu, hein, elle était un petit peu plus compliquée que ce qu'on espérait. Alors forcément après, il fallait aussi compter sur la Serbie pour ne pas se laisser faire. Je pense que la Serbie, et surtout par rapport à tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a entendu dans les médias, dans la presse, sur les réseaux, etc. avant le match, c'est-à-dire voilà à quel point le Brésil est ultra favori, etc. Je pense que les Serbes ont dû être assez remontés avant le match en se disant bah voilà, nous on est une bonne équipe, on est solide, donc on va leur montrer à ces Brésiliens qui sont soi-disant les favoris de quel bois on chauffe, on va dire. Donc effectivement, c'était assez frustrant. Je sais que voilà, tous les amis brésiliens, etc., ma femme et tout ça, tout le monde était assez frustré par la première mi-temps. Et après, par contre, la deuxième mi-temps, ils ont déroulé, quoi. Et en fait, moi, la question que je me posais avant ce match, c'était de me dire, OK, on va voir le niveau du Brésil sur ce match. Et surtout, moi, je me demandais, on regarde l'effectif, on regarde l'état de forme des troupes, etc. Je me disais, mais j'arrivais pas à imaginer, mais quelle sélection va arriver à stopper ce Brésil-là. Et en fait, surtout sur cette deuxième période, moi, elle renforce encore plus cette sensation. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment eu l'impression d'un rouleau compresseur, quoi. Et puis surtout, la profondeur de banc est juste folle. Tu sors Richarlison, tu fais rentrer Jesus. Tu sors Rafinha, tu fais rentrer Anthony.
Offensivement, c'est d'ailleurs
qui fait rentrer Martinelli.
Tite l'a dit en conf d'après match, parce qu'on lui a reproché, enfin, on l'a interrogé sur Richarlison, qui est pas le mec le plus élégant. Enfin, c'est pas le stéréotype du footballeur brésilien des années 70-80, allez peut-être même 90. Mais il a dit, j'aurais très bien pu appeler Hulk, Gabriel Barbosa. Enfin, il aurait pu appeler plein d'autres mecs finalement. Ça a fait pas mal de débats d'ailleurs au Brésil, hein, au niveau offensif, hein, les choix de Tite, Max. Hein.
Alors ça a fait du débat au niveau offensif. Après, ce qui a fait le plus de débat, c'est la sélection de Daniel.
Ça
c'est un autre sujet. De toute façon, il est là pour le passé, dans le bus. Hein. C'est pour le tamboring, c'est pour faire les percus avant le match dans le bus et c'est tout, quoi. Non, pour l'expérience aussi évidemment, mais non, c'est vrai, Richarlison. En plus, moi, tu me dis ça à moi, Nico. Moi, je suis supporter d'Arsenal, donc si tu veux un mec de Tottenham, je ne le porte pas spécialement dans mon cœur a priori. Mais là, sur ce match, en fait, c'est son côté un peu rugueux, son côté combatif, c'est quelque chose qui en fait fait beaucoup de bien finalement dans cette parce que tu sais que ça libère des espaces. On le voit d'ailleurs avec l'équipe de France, quand t'as un mec comme Giroud, c'est un mec qui pèse tellement sur une défense qu'il finit par forcément à un moment par libérer des espaces pour ses coéquipiers. Et je pense que Richarlison arrive à avoir ce rôle là et c'est vrai que Gabriel Jesus, bon voilà, moi je me demande ce que ça donnerait s'il débutait. Il faut
peut-être qu'il faudrait le voir à un moment. Mais finalement, quand tu as Richarlison qui est là, qui par ses appels, par sa technique, par son côté combatif, arrive à peser sur une défense, à fatiguer sur une défense, et à 20 minutes de la fin, tu fais rentrer Gabriel Jesus, qui lui, du coup, va être vraiment un puncher, un dribbleur, au moment où les mecs sont un peu fatigués. En fait, ce Brésil, il a tout, quoi. Et puis,
Je te coupe deux secondes, Max, juste qu'on fasse réagir les gars. Vous réagissez également au 32-16, vous pouvez réagir sur Twitch également. Juste quand même sur Richarlison, Guillaume et Perja, est-ce que pour vous, c'est un attaquant top niveau mondial?
Ah, moi j'aime beaucoup. Hein. Moi je l'ai. Alors je regarde pas beaucoup le championnat d'Angleterre. Je l'ai découvert donc en Ligue des Champions contre l'OM. Impeccable, bagarreur, sérieux. Il y a une occasion, il la met au fond. C'est propre. Et comme on en comparait avec Giroud là, c'est exactement le genre d'attaquant vraiment. Il est là. Là tout à l'heure, je sais pas s'il fait exprès de rater son contrôle ou s'il se la lève vraiment. Mais même si le contrôle est raté, le réflexe de se retourner de la magnifique. Ouais. C'est tout. Ce qu'on lui demande, c'est quel que soit l'endroit de marquer. Les deux fois, que ça soit du coup de pied alors que le ballon il est redévié ou quand son contrôle il est moyen.
Justement, on le compare à Giroud. C'est vrai que souvent on dit Giroud, c'est pas le genre de profil qui fait rêver, etc. Notamment pour un joueur offensif. T'en penses quoi, toi, de Perja de Richarlison?
C'est pas le genre de neuf qui peut genre regarder le ballon ou des trucs comme ça, un peu à la Benzema ou quoi. Mais quand t'as autour de toi du Vinicius, du Neymar, bon, je vais pas dire Richarlison parce que j'ai trouvé vraiment moyen sur ce match. T'as besoin, ouais, de ce neuf efficace qui est capable, genre, en un ballon qui arrive de.
Tu l'as trouvé moyen, Richarlison?
Rafinha, non?
Rafinha,
ouais,
pardon.
Oui, ouais,
mais
ça
suffit
pas.
Petit lapsus,
je l'aime bien, mais je l'ai pas trouvé.
Il arrive à mettre 4 ou 5 buts.
Il a joué ce soir?
Ouais, qu'est-ce qu'il est nul.
Rafinha, c'était compliqué, hein, sur la finition. Mais non, j'ai pas vu de match de Tottenham, j'avoue, ces derniers temps. Donc, je peux pas me prononcer là-dessus. Mais en tout cas, sur ce match, c'était efficace.
Vous faites du Brésil un favori. Vous avez cette sensation de rouleau compresseur, comme dit Max, ou pas?
Alors moi, on en parlera après parce que je parlais de la Suisse tout à l'heure. Mais pour moi, c'était le groupe le plus difficile de la Coupe du Monde de toute façon. C'est le groupe le plus sérieux et le plus compact.
C'est vrai qu'il est chaud ce groupe. Hein.
C'est-à-dire Serbie, c'est très costaud. Ça a fini devant le Portugal.
Ouais.
La Suisse, ça a fini devant l'Italie. Le Brésil, c'est le Brésil. Et derrière, t'as le Cameroun qui est une équipe puissante, qui finalement plafonne. Mais voilà, c'est pour moi, c'est le groupe le plus dur de la compétition. Et on le voit d'ailleurs, beaucoup mettaient le groupe de l'Allemagne et de l'Espagne. On a vu l'Allemagne.
Oui, c'est pas fini, cela dit. Je pense que le groupe va être encore plus dur. J'ai la preuve que le groupe est dur.
J'ai beaucoup perdu.
Tu dis que des conneries.
Absolument,
en fait.
Mais je suis là pour ça.
Je m'adapte à la
situation.
On va te dégoûter l'after depuis longtemps, toi.
C'est pour ça.
T'as bouffé le cerveau, mon pote. Vas-y, Perja.
Non, juste sur la Serbie qui a battu le Portugal. De base, il n'y avait pas la goal line technologie. Il y a eu un but refusé.
Ouais, non, mais ok.
Non,
mais franchement, elle n'est pas volée. Alors, le match aller, ok, il y a ce but machin.
Non, mais oui.
Mais le match retour, par exemple. Ok, tu prends le but à la toute fin, mais tu le prends le but.
Oui.
Et pareil, on en revient. Même constat que face à l'Espagne, je refais la parenthèse gage. Putain, je suis obsédé par ça.
mais
c'est toujours dans les 10 dernières minutes. Les trous d'air.
C'est frustrant.
C'était pour parler de la qualité du groupe qui.
Ouais, voilà, ça combine extrêmement bien, par contre, le Brésil. Hein, vraiment, c'est.
Oui. Oui, par contre, s'ils sont mis en difficulté et qu'ils sont pressés, c'est comme des équipes avec énormément d'individualité comme ça, ça va être difficile de s'en sortir.
En fait, souvent, je me demande à quel moment le Brésil va se foirer dans la Coupe du Monde. C'est souvent comme ça, genre ça.
Moi, j'ai une idée.
Toujours à un moment.
Lundi.
La Suisse, toi, t'es chaud, toi.
Les gens sont pas d'accord sur le groupe. Hein.
Alors vas-y, ça chien ou comment on dit ouais,
ça bah, chien. Ils pensent que c'est plutôt le groupe où il y a la Belgique, le Maroc, etc., qui est plus relevé. Après, moi, je peux comprendre. Hein. Franchement, alors, beaucoup de respect pour la Serbie et tout.
Non, mais
sur
Belgique, Maroc, Canada, Croatie. Ah, pas mal. Franchement, tous les groupes sont homogènes.
Non, oui, je suis d'accord.
Mais
c'est une belle Coupe du Monde, mais.
Mais je pense qu'il y en a qui n'ont pas l'impression du rouleau compresseur pour le Brésil.
Ça a l'air d'être. Pour moi, la Serbie n'a rien montré aujourd'hui. La Serbie n'a rien montré aujourd'hui. Hein. Ils ont joué défensif, ils ont joué derrière. Collectivement, ils coulissent bien, ils jouent à 5 à 8 derrière. Mais sinon,
oui, mais même, tu sens qu'il y a des. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a des automatismes dans le Brésil. Genre, quand ça combine, ça va vite. Genre, Vinicius sur le côté, ça.
Mais c'est
ça,
quoi, surtout après le premier but?
Oui.
Ouais. Et là, en revanche, je vais dans le sens, Max. C'est là, les mecs, tu as senti qu'il y avait la crispation du premier. Ils n'y arrivaient pas. Et derrière, là, tu t'es dit, putain, ils vont prendre cher, les Serbes.
Mais les Serbes craquent aussi, je pense. Je pense que mentalement, tu sens que les Serbes, là, ils y sont plus. Ils ont vraiment beaucoup bataillé.
Il y a ce but. Et puis après,
il faut qu'ils changent
le logiciel en 3 minutes pour essayer d'attaquer, alors qu'ils ont défendu pendant 70 minutes.
Il y avait de la cohérence, parce que moi, je disais, ils cherchaient haut, ils cherchaient des ballons aériens. Physiquement, je
trouvais
plus imposant et tout. Désolé, Max.
Non, ce que je voulais dire, c'est oui, bien sûr que la Serbie, ils n'ont pas montré grand-chose, mais on peut aussi se demander pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas montré grand-chose. Parce que
ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est ce qu'on n'a pas encore abordé, parce qu'on parle beaucoup de l'attaque du Brésil, évidemment, mais derrière, le Brésil, c'est extrêmement solide. Enfin, je veux dire, quand t'as un mec comme Casemiro avec l'expérience qu'il a, moi j'étais moi j'étais au Parc des Princes, c'est la première fois que je voyais pour le match, bon évidemment, enfin la Tunisie c'est pas très fort et tout, le Brésil a gagné 5-1 au Parc des Princes, mais match amical c'était en septembre, mais moi c'est la première fois que je voyais Casemiro depuis depuis les tribunes en fait. Et moi j'étais impressionné, ce gars-là, le placement, il est parfait constamment. C'est 90 minutes du match, Casemiro, il va constamment être bien placé. Il va constamment savoir couper les lignes de passe, il va constamment savoir anéantir une contre-attaque. Derrière, quand t'as une charnière avec Marquinhos et Thiago Silva, et Thiago Silva qui, malgré son âge, fait encore des saisons qui sont assez impressionnantes. Derrière, s'il y a pas lui, il y a Eder Militao. Et derrière, de toute façon, Tite, il a dit, nous, vu l'attaque qu'on a, on va choisir même des latéraux qui soient des latéraux relanceurs, qui soient des latéraux défensifs. Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir des latéraux offensifs en plus de ce qu'on a déjà. On a déjà une force offensive qui est tellement
forte. Et donc, il a pris Dani Alves, quoi, logique, ouais.
Non, voilà, enfin, bon, non, mais il a donné une justification sur Dani Alves. Bon, voilà, mais de toute façon, on en a parlé, Nico, tu vois, je pense que c'est la même chose de ça. Mais après, c'est sur le reste. C'est-à-dire que, moi, j'entends que, je sais plus qui a dit ça, qui a dit que le Brésil n'avait pas montré grand-chose et que la Serbie, c'était pas fou, mais, enfin, je veux dire, évidemment, après, on peut dire ça de tout le monde. Évidemment, en Espagne, ils mettent 7-0 au Costa Rica, le Costa Rica, c'était nul. Mais moi, ce que je tiens à retenir dans la victoire du Brésil, c'est que, on a senti quand même que la Serbie pouvait avoir des coups à jouer sur la première période. Et qu'en fait, ils n'ont rien pu produire, parce qu'ils ont été complètement étouffés par le Brésil. Et ce Brésil, qui donc c'était son entrée en lice, de la même manière quand on voit des équipes perdre, on peut dire « Ah non, ils peuvent se refaire sur le prochain match, parce que c'était le premier match. » Mais pour le Brésil aussi, c'était le premier match. Moi, je ne vois pas le Brésil jouer moins bien à partir de maintenant. Moi, je vois le Brésil jouer toujours mieux, en fait. Et il y avait un autre des consultants de ce soir qui parlait des automatismes, etc. Les automatismes, ils vont caler en s'améliorant. Donc, c'est ça. C'est pour ça que moi, je suis extrêmement optimiste sur le Brésil. Et on parle de pressing. Oui, peut-être que le pressing, ce sera...
Putain, tu parles trop, Max, là. Wow.
Non, mais le pressing, c'est difficile pour toutes les équipes, de toute façon.
Non, mais 100% donc, d'accord sur Casemiro, c'est-à-dire que...
Mais la technique des Brésiliens, et si à un moment, on n'arrive pas à ressortir le ballon, bah derrière, on peut faire rentrer un Bruno Guimarães, on peut faire rentrer un Fabinho.
Mais à un moment, ça tombera. Ça tombe toujours,
regarde-le. Ouais, mais ça se trouve, ça tombera avec la coupe dans les mains.
Mais alors, pourquoi ça tombe? Mais pourquoi à un moment ça tombera? Pourquoi est-ce qu'il faut se dire qu'à un moment ça tombera alors qu'on parle de la
sélection? Pourquoi tu remets une pièce dans la machine? Pourquoi tu remets au fait Jean na machine? Na machine. Il y a 4 ans. Mais enfin, là, simple, Nancy Carl, nada.
Pour donner raison à l'auditeur, il y a 4 ans, Casemiro absent, le Brésil éliminé direct. Voilà,
exactement. Max, merci d'avoir été avec nous en tout cas, Max.
Merci à vous les gars.
Et tu sais quoi, tu nous rappelles pour quand ça tombe ou quand ça tombe pas d'ailleurs, tu fais ce que tu veux, 32-16, hein, c'est comme Max. Tiens, juste avant que tu partes, Max, alors déjà, peut-être que tu gagneras la box Coupe du Monde, hein, le bonmaillot.com avec un maillot surprise à l'intérieur. Juste, il y a notre Real, Dani Torres, c'est notre producteur, Nico Le Druc, une surprise pour toi, parce qu'on rappelle, t'es supporter du Brésil.
Et le 6ème but pour l'équipe d'Allemagne, messieurs, c'était Marc. Et le 7ème but. Pour l'équipe d'Allemagne,
le Franchement, et Nico, en plus, je pensais que toi, tu saurais qu'au Brésil, après ce match-là, il y a eu 3 jours de deuil national.
J'en ai rien à foutre.
Quelle lucarne de Churleux.
Magnifique. Oh, je plaisante. Bisous, Max. Merci d'avoir été avec nous. Tu reviens quand tu veux. Ciao, Max.
Ciao. Tu cherches à joindre le doc et parler. C'est pas là. Ici, on parle de foot.
C'est l'after libre antenne sur RMC.
Oui, mais on est vachement ouvert, hein, donc on parle de ce que vous voulez. Vous appelez le 32-16. Il y a Max et Adri qui vous attendent pour intervenir tous les soirs pendant la Coupe du Monde. On est là jusqu'à 1h du mat. Vous êtes pas mal à nous appeler d'ailleurs. Tiens, on va parler un peu de la Suisse quand même.
Un petit peu.
On était dans le groupe du Brésil et de la Serbie.
Non,
la
c'est, Suisse, eux, c'est eux qui sont dans notre groupe.
C'est vrai, pardon, excusez-moi. C'est vous qui avez l'oseille.
Voilà.
Victoire 1-0. Ouais. But d'Embolo. Ouais. Alors, belle histoire, hein, Lucas Nayoundé. Voilà, magnifique. Comment tu les as trouvés, tes Suisses, Guillaume?
Très crispés au début du match, un petit peu à l'image des équipes qui jouent quelque chose sur ce tournoi. Et ensuite, en deuxième mi-temps, j'en parlais avec un ami à la mi-temps. Je lui dis, on va avoir une ou deux occasions en début de deuxième mi-temps, faut la mettre absolument et après, faut péter le match. C'est-à-dire, on casse le rythme, on sait faire, on prend le ballon, on leur rend pas, c'est réglé.
Vous êtes relou à jouer, hein?
Absolument.
Vous êtes très très chiant à jouer. Moi j'ai souvenir de matchs en phase finale, même éliminatoire, pas que face au Portugal, les Français peuvent en témoigner aussi.
Bien sûr.
Vous êtes très très chiant.
Bien sûr, bah, regarde le Portugal, le but de Seferovic.
Vous êtes très très chiant d'une façon générale déjà d'ailleurs.
Oui, mais je. Mais,
ouais, de mais façon, pas que football en fait.
D'ailleurs, c'est la première fois qu'on se parle ce soir, tu m'as dit tout de suite t'es chiant.
Le vrai visage de Nicolas Villas.
Non mais. Regarde par exemple le match Portugal-Suisse la dernière fois, Seferovic bute à la 55e minute. Ouais, ouais. Derrière, pas de danger. L'Espagne, là, on les a joués il y a deux mois, on gagne 2-1, tranquillement.
Le boulard.
Mais ils sont très confiants. Là aussi,
je m'investis de ouf.
Ça va, tu l'as commencé.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que la Suisse, ça fait maintenant 20 ans qu'ils sont entre la 6e et la 15e place mondiale au classement FIFA.
C'est vrai que t'as raison, il y en a
beaucoup qui ne le voient pas parce que ça restera toujours en France. Et moi, pour mes amis, je serai toujours le petit Suisse, donc pas de problème.
Mais tu sais pourquoi aussi?
Hein, parce qu'ils aiment me manger?
Non. Regarde pas, tu fais ce que tu veux.
T'as dit qu'on parlait de tout.
Oui, mais on est très ouvert. C'est la libre antenne. Aussi, vous êtes un peu, on va dire, vu de haut, parce que vous avez un championnat bidon aussi.
Non, mais ça, c'est autre chose.
Non, mais ça joue forcément.
C'est le 13e championnat européen, 13e ou 14e avec la Belgique, ça se tape.
Oui, mais donc c'est bidon.
Bien sûr, mais c'est pas pour ça que les joueurs qui s'expatrient justement dans des championnats, que ça soit même Zakaria qui joue actuellement à Chelsea ou qui joue peut-être pas beaucoup, mais qui est remplaçant en équipe de Suisse. On commence à avoir un banc aussi. C'est un pays qui a 8 millions d'habitants. C'est pas comme j'en parlais, donc le Japon qui bat l'Allemagne qui a 80 millions d'habitants, le Nigeria qui en a plus de 200 millions, etc. Il y a des pays qui ont aussi un certain nombre de potentiels joueurs qui est assez extraordinaire. Nous, on se bat aussi avec de la tactique. Au départ, les 10 premières années, entre 2000 et 2010, il fallait pas prendre de but et essayer de marquer un but en contre. Maintenant, on a commencé à avoir la possession. On l'a vu encore aujourd'hui contre le Cameroun. Et c'est ce que je disais sur le match de lundi qui va arriver.
T'es confiant toi ou pas?
Contrairement à la Serbie, la Suisse prendra le ballon. C'est toute la différence du match. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé il y a 4 ans. Il y a 4 ans, tout le monde m'annonçait 5-0, 8-0, 12-0. Ça ne servait à rien de garder le match. On a fait un partout. Sans difficulté.
Vous avez jamais perdu d'ailleurs, je regardais contre dans votre. Il n'y a que deux matchs en phase finale de Coupe du Monde.
L'Italie
Non, contre le Brésil, vous avez fait deux matchs en Coupe du Monde, deux matchs nuls.
Bien sûr. Ouais. Mais là, dernièrement.
On va rien dire, cela dit.
Dernièrement, sur un groupe de qualification avec 12 matchs, l'Italie ne nous a pas battus.
Ouais.
Et oui. Alors qu'ils sont champions d'Europe, donc c'est pas.
Après, ils sont pas à la Coupe du Monde non plus.
À cause de
Jorginho aussi.
Bien sûr, mais à cause de Jorginho, à cause de Sommer qui est un spécialiste des pénalités
aussi. Complètement sous-côté. On en parlait d'ailleurs. Mais est-ce que c'est pas le gardien en Europe, enfin ou du moins l'un des gardiens les plus sous-côtés dans le football européen, Sommer?
Très solide.
Tu vas être convaincu, évidemment. C'est un joueur magnifique. C'est-à-dire que si on bat l'Espagne, je pense en quart de finale là au petit rebut, il est gardien de l'Euro.
Ouais.
Il est meilleur gardien de l'Euro sans problème. Les arrêts qu'il fait contre l'Espagne, ils sont extraordinaires. J'invite tous les auditeurs à les regarder de nouveau. Contre la France, c'est fantastique. Enfin, je veux dire, c'est un gardien qui est solide de fou. Quand il s'est blessé il y a un mois et demi, j'étais comme ça. T'as un tremblé là.
T'as un gardien comme ça sous côté qui te vient à l'esprit, Perja?
Sous côté, non, j'en ai vraiment pas vraiment. J'en ai pas en tête maintenant. Je veux pas. J'aurais dit Patricio à une époque, mais
il était pas sous côté quand il était titulaire dans une grosse nation.
Oui, mais en club, ça restait au Sporting.
Ouais, c'est
un moment.
Ça
dit Ochoa dans le chat, mais bon, c'est le côté Coupe du Monde aussi, Ochoa.
Il a jamais joué dans un top club, c'est vrai.
Après, Ochoa, ouais, il nous a fait rêver en Ligue 1, c'est surtout ça aussi.
C'est vrai.
Mais pas dans un gros club, justement.
Si tu fais la même émission en Allemagne, etc., Ochoa, ils disent, ah ouais, c'est
après,
pas mal.
Il a beaucoup voyagé quand même, c'est une grosse resta, notamment au Mexique, au même Ochoa. C'est quoi une belle Coupe du Monde pour la Suisse pour toi, Guillaume?
On a battu la France, qui était championne du monde à l'Euro. On était quart de finaliste et on a été éliminé par l'Espagne au tir au but, alors qu'on a joué à 65 minutes à 10 contre 11 avec quand même un de nos joueurs plus importants, Remo Freuler, qui avait été expulsé. Moi, franchement, on fait un quart de finale, on fait une demi-finale, c'est fantastique. Alors après, avec les joueurs qui ont été champions du monde en U17 il y a maintenant 12 ans, c'est la même génération.
Alors gros,
Shaqiri, Seferovic, etc.
Gros boulot de la DTN en Suisse. Alors d'ailleurs, qui bosse beaucoup avec les binationaux aussi, ou les trinationaux, parce qu'il y a un gros métissage également culturel et ethnique en Suisse. Il y a un vrai taf qui est fait de la part de la fédération depuis pas mal d'années.
Contrairement à la France, c'est un pays qui est multiculturel.
Ouais.
Déjà, il y a plusieurs langues nationales, il y a plusieurs systèmes d'éducation, tout est différent par rapport à la France. Donc des binationaux, il y en a beaucoup. Par contre, c'est toujours pareil. On parle souvent de Xhaka et de Shaqiri qui, dans le dernier match de la Serbie, j'aimerais bien qu'on soit qualifié avant le dernier match parce que c'est toujours chaud ce genre de match. Il y a une véritable presque haine entre les différents
pays. On se souvient du coup
de
l'aigle à deux têtes.
Tout à fait. Ouais. Kosovo-Serbie, c'est toujours compliqué.
Ouais.
Et donc c'est des Kosovars. Et donc c'est vrai que c'est tendu. Mais c'est parce que justement, c'est un pays multiculturel qui accepte France, de parler justement de tout ce qui se passe et de l'origine que tu as.
On va accueillir Nicolas qui nous a appelé au 32-16. Vous êtes dans la libre antenne sur RMC. Et il nous reste 20 minutes. Ça passe tellement vite cette émission. Quel kiff. Nicolas est avec nous. Salut Nicolas.
Salut Nico. Salut à tous.
Comment ça va, Nico?
Très bien. Merci de faire cette émission, les gars.
Bah non, écoute, merci à toi, merci à la direction, merci Karim Nedjari, Manuel Renard, Greg Caranoni, merci Patrick Drahi, bien sûr.
On s'embrasse.
Sans qui nous n'aurions pas tout cet argent à la fin du mois. Voilà, bisous à tout le monde. T'es supporter de qui, Nicolas ?
Supporter de Nantes. Et de la France, bien sûr, à la Coupe du Monde.
Ah, parce que j'ai dire, qu'est-ce que tu fous là, alors? Mais
en fait, je voulais parler.
Bah, c'est libre antenne, ça dit, tu peux. Hein.
Il y avait un joueur nantais au Cameroun qui jouait.
Quand?
Castelletto.
Castelletto, effectivement.
Mais... C'est pas notre meilleur joueur. Mais...
Et alors, tu voulais pas parler de Nantes, tu voulais pas parler d'ailleurs de l'équipe de France. Je crois que tu voulais parler de l'Allemagne.
Oui, parce que hier, j'ai entendu pas mal de débats, que ce soit dans l'after avec Polo, puis ensuite sur notre plateau. Beaucoup de gens ont critiqué l'Allemagne et. Ça avait l'air très définitif, même là, ça, j'entendais à nouveau. Mais moi, je suis pas du tout d'accord. J'ai vu hier une erreur de parcours, j'ai vu une erreur qui vient d'un manque d'efficacité. Bon, ça reste très grave en Coupe du Monde parce que du coup, ils sont moins maîtres de leur destin. Mais moi, j'ai continué de voir une équipe super forte et une équipe qui peut taper n'importe quelle équipe. L'auditeur d'avant, il disait qu'il voit pas d'équipe, il voit pas qui peut stopper le Brésil. Moi, l'Allemagne, je pense que c'est l'équipe qui a le plus gros QI foot de la Coupe du Monde. Des Kimmich, des Müller, des Souleux, le Roi Sané quand il va revenir de blessure. C'est vraiment le plus gros QI foot. Bon, bien sûr, il y a quelques soucis, et c'est pas non plus une équipe parfaite, mais je suis étonné, quand on regarde le match d'hier, d'avoir entendu autant de critiques partout contre l'Allemagne, comme si c'était plus la grande Allemagne, c'est foutu.
Ça reste un bel effectif, quoi qu'il arrive, hein, et l'Allemagne, souvent, sera toujours un peu l'Allemagne, genre ça reste très très solide en compétition internationale.
Bah, oui, totalement. Et puis en plus, quand on parle de mentalité, des joueurs comme Kimmich, comme Goretzka, ils restent une mentalité comme celle qu'on connaît de la grande Allemagne.
Mais c'est pas forcément ce qu'on a vu hier, Nico. Tu vois le délire. L'Allemagne reste pas sur des perfs extraordinaires dans les phases finales. Et c'est vrai que là, il y a forcément, tu perds face au Japon. Même si moi, là-dessus, je suis assez d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'ils auraient très bien pu remporter le match en première période, sauf qu'ils l'ont pas fait. Et c'est là où moi, je reprends tes arguments. Est-ce que c'est pas le mental qui leur a manqué? Il y a cette fameuse image que beaucoup ont ressorti comme un symbole, Rudiger qui court en mode poney là devant son attaquant, et au final le mec se la raconte à 1-0 et finit par perdre le match d'un. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que le mental suit vraiment dans cette équipe?
Je sais pas. Est-ce que c'est du QI du coup quand tu fais ça?
Le seul qui a vraiment un souci mental, c'est Schlotterbeck, mais Schlotterbeck, c'est comme à Dortmund, il est très très bon 95% du temps, et de temps en temps il va faire des conneries. Alors oui, c'est pour une équipe championne du monde, c'est problématique. Mais il reste très très fort 95% du temps. Et à part lui, moi, mentalement, je les vois quand même tous assez constants. Non, et Gnabry qui peut avoir des baisses aussi.
Non, après, le problème, c'est qu'on parle de l'Allemagne. Donc, c'est-à-dire que quand on parle de l'Allemagne qui perd, on oublie de parler du gardien japonais qui fait gagner le Japon. C'est-à-dire que c'est le gardien japonais sur une action. Déjà, il fait 4 arrêts sur la même action. Il sort des parades de folie. Bravo à lui. Mais le problème, c'est que c'est l'Allemagne. C'est comme si la France avait gagné et avait bien joué. C'était l'Australie en face. Et donc, s'ils avaient perdu contre l'Australie, on ne parlerait que de la défaite de l'Australie. La grandeur de l'Allemagne fait que, à part à la dernière Coupe du Monde où ils sont sortis au premier tour, ils vont toujours en quart de finale. Donc si l'Allemagne perd contre le Japon en match d'ouverture, c'est une catastrophe. Et donc on ne parle que de l'Allemagne. Et donc on ne parle pas de la qualité de l'effectif du Japon, de la qualité des parades du Japon. Et c'est pour ça.
Totalement. En plus, le but du japonais qui met en contre, il se la protège super bien. La finition, elle est incroyable. Il fusille meilleur. Ils vont pas s'en prendre 20 des buts comme ça.
Non, bien sûr. Et en plus, le j'arrive jamais à prononcer le nom du défenseur dont tu parlais. Mais c'est un, merci. Mais c'est un défenseur qui monte et qui est très jeune aussi. Hein, donc voilà, c'est pas d'expérience de fou non plus.
Nico, merci d'avoir été avec nous en tout cas dans la Libre Antenne. Bonne chance à toi également pour gagner la boxe Coupe du Monde. Lebonmaillot.com.
D'ailleurs, ils ont déjà gagné la compétition du plus beau maillot de la Coupe du Monde.
Il est dégueulasse. Tu trouves beau, toi, le maillot de l'Allemagne de cette année?
Il divise de ouf.
Non, il est beau. Arrêtez, les gars, c'est pas un maillot d'Allemagne. Il est où le rouge? Il est où le jaune?
Je trouve que c'est le plus beau maillot.
Moi, je trouve que c'est le maillot le plus flou. Non, il est normal de ouf.
T'as vu le maillot du Portugal?
Le plus beau maillot.
Ah, mais moi, j'ai jamais dit que. Moi, le maillot rayé, j'aime bien l'équipement. Tu vois, j'ai été
avec le short.
C'est ce que je te dis.
En manche longue, floqué le Roi Sané, pour moi, c'est le plus beau maillot de la Coupe du Monde.
Ah, le sent... maillot de l'Allemagne?
Mais attends, c'est quand même un maillot blanc avec une bande noire.
Mais toi, on savait où t'étais il y a quelques années.
C'est un truc de ouf.
Non, je pense que monsieur n'a pas beaucoup vu le maillot de la Nati.
Alors, tu sais quoi? On en parlait tout à l'heure. Guillaume Cher,
la propagande.
Mais je ne m'en prie
pas. Je suis là pour ça. Il n'y a jamais existé à la radio.
Moi, je vous avoue que les maillots. Alors, pareil.
Les maillots Puma.
Voilà. Alors, ils ont fait des trucs dégueulasses lors de la dernière Coupe du Monde. Et là, ils reviennent au truc vintage. Le maillot du Maroc, par exemple.
Ah, bien sûr.
Mais c'est un copier-coller. c'est des maillots vintage.
Mais ils sont solides au moins.
Exactement.
Avec l'euro, il y avait écrit Suisse,
des maillots extérieurs.
Italie.
Mais c'est très beau les extérieurs aussi. Ils ne sont pas GG non plus.
C'est du Brésil, il fait le taf.
Très ah non, non, le vert, c'est dégueulasse. Le vert plus haut, non, 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 pas le vert.
Mais non, mais tu les aimes vraiment quand ils auront perdu lundi.
Bon, merci Nico, bonne soirée. Tu reviens quand tu veux, Nico. Bisous, ciao, ciao, Nico.
La seule émission qui te laisse la parole pour parler foot. Sans filtre, sans tabou, jusqu'à une heure.
C'est l'After Libre Antenne sur RMC.
Et beaucoup, beaucoup d'appels au 32-16. On est encore là pendant un quart d'heure. On est là tous les soirs pendant la Coupe du Monde jusqu'à une heure. C'est l'After Libre Antenne. Tu appelles au 32-16. Tu peux gagner des maillots. Ça réagit sur Twitch ou pas, Sacha?
Bien sûr, twitch.tv, Sacha RMC Sport. Il y a 1000 personnes. Hein. 1000 personnes qui sont chaudes.
Il y a 1000 personnes tous les soirs, donc je vois pas l'évolution, si tu veux. Moi, je crois que c'est ça qui vient me remonter le moral, frérot.
Ah, ok, pardon, désolé. Pour eux, l'Allemagne, ça va repartir fort. Et par contre, la Suisse, c'est bon. C'est une équipe sympa.
Ouais. Super, les commentaires.
Bah, ils sont sympas, les Suisses. Hein,
non, mais après, je redescends à 500.
Sur les 1000 personnes, il y en a 880 qui sont là parce qu'on a parlé de Capirinia. Hein, donc c'est pour ça.
Ah, oui, ils veulent leur accent. À consommer, hein? Tous les deux.
Ouais, voilà. Là, on se comprend.
Les gars, on accueille Rachid qui nous a appelé au 32-16. Salut Rachid.
Bonsoir Nico, bonsoir la team. Bonsoir.
Comment il va Rachid?
Salut Rachid.
Ouais, ça va. Bon, si je peux aussi critiquer le maillot de la Belgique, il est pire encore.
Oh putain, ah, oui, Pays-Bas, mais c'est manche, qu'est-ce que c'est que ce bordel?
Pire maillot,
on dirait un 206 tuné.
Déjà, quand il y a eu le changement d'écusson.
Moi, j'aime bien le nouvel écusson.
Moi, j'aimais bien l'ancien.
Moi, j'aime bien celui-là, moi.
Et bon, les flammes, pas. Enfin,
ouais, mais t'as raison, il y a un côté.
Et les chaussettes flammes.
Attends, les chaussettes flammes.
Il y a les chaussettes flammes,
bien sûr.
Les chaussettes sont enflammées.
Oh là là.
Et ça fait pas courir plus vite en plus.
Non, c'est ça le pire.
Oh, les néons sous les chaussures, j'ai hâte.
Rachid, t'es supporter de qui?
Moi, je suis supporter de l'équipe nationale marocaine et celle de l'équipe.
Très beau maillot, déjà. Belle équipe aussi, d'ailleurs.
Dans le chat, ils aiment tous le maillot du Maroc. C'est pour
moi. Il est magnifique.
Après, l'euro, c'est vraiment un coup de cœur pour la Coupe du Monde 86, en fait.
Ouais.
C'est un petit big up. Donc, voilà. Après, moi, j'aimerais réagir sur l'équipe nationale marocaine. Donc,
vas-y.
On a beaucoup parlé du Sénégal, du Ghana, du Cameroun. Mais franchement, pour moi, le Maroc, ils ont fait un bon résultat. Donc contre les vice-champions du monde.
C'est ce que disait Hicham qui était là d'ailleurs hier, un supporter du Maroc. On en a beaucoup parlé hier soir notamment.
Donc voilà, désolé, j'étais pas là.
Bah voilà, tu vois, t'arrives, t'appelles, tu tailles, on n'en parle pas et t'écoutes pas les émissions.
Ah désolé, j'étais au boulot, c'est pour ça.
Mais t'as qu'à pas bosser mon pote aussi. Non, mais qui bosse aussi, à minuit sans déconner.
C'est has-been de fou.
C'est la
Coupe du Monde.
Attends, dans un pays blindé, genre il y a la crise et tout. Bref. Tu bosses dans quoi d'ailleurs, Rachid? Tu fais quoi dans la vie?
Moi, je suis commercial en parfumerie de luxe.
Et tu bosses à une heure
de matin?
T'as rien trouvé mieux pour expliquer?
Il n'y a pas d'heure pour sentir bon.
Ouais. Alors vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire sur le Maroc, Rachid?
En fait, j'ai entendu pas mal de petites critiques sur les réseaux sociaux et je voulais juste réagir par rapport à ça. Déjà, les joueurs clés comme le retour d'Hakim Ziyech. Donc, faut pas oublier que ça faisait maintenant plus de 3 ans, il n'a plus joué en équipe nationale. Donc, pour lui, c'est tout nouveau. Donc, après, le gros problème de l'équipe nationale marocaine, ça a été toujours l'attaque. Donc, les attaquants, malheureusement, n'arrivent pas à concrétiser. Donc, on a un bon joueur, Nesri, mais malheureusement...
Il a du mal quand même, depuis quelques mois, là.
Bah, on a l'impression qu'il a deux pieds gauche. Donc, c'est un peu compliqué. Mais après, je pense que ils ont fait un bon match nul. Après, je pense que contre la Belgique, c'est prenable. Parce que j'ai regardé le match contre le Canada. Franchement, la défense de la Belgique, c'est une autoroute sans péage. franchement.
Très belle image. Bravo.
Et franchement, c'est un peu compliqué pour eux, mais je pense que la Belgique, c'est prenable. Et moi, je reviens de Belgique. Là, je suis parti tâter un peu le terrain là-bas. Je repars.
En espionnage.
Il était parti à Amsterdam. Il était
l'analyse. Rachid. Et c'est parti faire en Belgique, Rachid.
Comment?
Qu'est-ce que t'es parti foot en Belgique?
Bah en fait, déjà, j'ai un ami à moi là-bas et en fait, j'ai repéré un coin parce qu'apparemment, il y aura une fan zone entre les supporters.
Ouais
oui, exactement. C'est vers.
Il y a une grosse communauté marocaine en Belgique aussi. Donc,
exactement. Ouais. Donc, c'est pour ça je vais partir avec un ami à moi. Et un
très bon, c'est bon ça.
Donc, on va faire un petit groupe de supporters marocains. On va y aller là-bas, donc sur les Lions de l'Atlas. Donc, moi, je pense que la Belgique, on peut les gagner. Donc, faut les respecter, on va pas se mentir, faut les respecter. Mais faut être supporter du Maroc, faut les supporter. Donc, je pense que c'est un groupe prenable. Donc, pour moi, on peut le faire. Franchement, je pense qu'on peut le faire. Après, c'est nettement mieux qu'en 2018, parce qu'en 2018, le premier match, on a perdu contre l'Iran. Donc, là, ça s'améliore. Après, faut pas oublier aussi que c'est le tout premier match officiel de Walid Regragui. Donc il faut lui laisser le temps. Et bah, moi, je pense que.
Bah, c'est vrai que tu fais finalement. Alors, en plus, faut quand même relativiser. Alors, même si moi, j'aime pas forcément catégoriser, mais bon, il faut bien le faire parce que c'est des équipes qui s'affrontent entre elles. Mais c'est vrai que les nations de la zone CAF, c'est pas ouf. Hein. Les deux premiers buts marqués par les équipes africaines dans ce mondial, bah, c'est le Ghana ce soir, mais c'est encore une défaite face au Portugal. C'est la première équipe africaine qui marque dans cette Coupe du Monde. Pour l'instant, c'est deux nuls, trois défaites, et les deux nuls, c'est la Tunisie et le Maroc justement. Donc,
pour le coup, j'ai apprécié le Cameroun en première mi-temps contre la Suisse. Hein. Ça, je trouve qu'il y avait moyen vraiment d'aller chercher un but. Ils ont mis.
Méfie-toi quand même. Ouais,
ils sont
méfie-toi quand même parce que tu dis. Je t'en fous, t'as gagné toi déjà.
Mais c'est vrai, vas-y.
Non, par contre, le Maroc, moi, ce qui m'embêtait, j'ai un a priori positif sur le Maroc. Et sur les joueurs qui la composent, et c'est une belle équipe qui joue vers l'avant. J'ai été embêté du départ toujours d'Ali Lodzic, c'est toujours pareil, et donc comme le disait l'auditeur, c'est que finalement par rapport au fait que ce soit son premier match officiel, c'est pas mal ce qu'ils ont fait quand même. Ouais. Mais voilà, j'ai ce petit pincement pour Ali Lodzic, qui est pas un entraîneur que j'apprécie particulièrement, mais à chaque fois qu'il se qualifie, on le vire avant qu'il parte.
C'est vrai que lui, le pauvre.
Voilà.
Après, moi, je fais partie des supporters que j'ai pas trop apprécié l'attitude de Vaïd. Donc,
ah bon, bah alors. Mais par rapport à quoi alors? Vas-y, dis-nous, Rachid. Qu'est-ce que t'as pas aimé, Rachid? Dis-nous.
Bah, en fait, il a un côté hautain, même la façon comment il parle aux journalistes et même.
Oui, mais t'es pas journaliste, tu t'en fous.
Oui, bien sûr. Non, mais je suis d'accord avec toi, Nico. Mais le problème, c'est que même il y a eu des frictions avec les supporters où il a insulté les supporters qu'au Maroc ils ont gagné contre le Congo. Il les a dit, ouais, je vous ai qualifié bande de connards. Donc ça a pas.
Oui, peut-être qu'il répond à des insultes aussi, Rachid. Tu vois, c'est.
Oui, je suis d'accord.
Ah bah, oui.
En fait, il doit montrer l'exemple. Donc c'est un professionnel. Donc voilà quoi. Donc je pense qu'il y a eu beaucoup de problèmes, mais je pense que le gros problème c'était Ziyech.
Ah bah ça c'est sûr, c'est sûr.
Donc
c'est sûr.
Le problème de Ziyech, donc voilà, apparemment il y a eu des insultes envers le père de Ziyech, donc c'est ce qui a bloqué un peu. Donc on va pas rentrer dans les détails. Après voilà, donc ce qui reste pour moi le plus important, c'est l'équipe nationale. Donc les entraîneurs, ça part, ça revient. Si c'est pas Walid, c'est quelqu'un d'autre.
Ok Rachid. Donc, voilà, donc. Eh bah, tu reviens quand tu veux dans la libre antenne, Rachid.
Ah bah, je vous appelle dimanche, hein, de toute façon.
Eh bah, vas-y, Rachid, dimanche 32-16, t'appelles et tu réagis. Et bonne chance à toi également pour gagner la box Coupe du Monde sur lebonmaillot.com. Merci, Rachid, à plus.
Merci, bonne soirée.
Bisous, Rachid.
Jusqu'à 1h, c'est toi qui fais l'émission. Appelle le 32-16.
C'est l'after libre antenne sur RMC.
Et on est déjà dans les dernières minutes de cette libre antenne. Quelques réacts sur Twitch ou pas, Sacha?
Ouais, Ali Lodzic, le pauvre. Ça commence à voter déjà pour le meilleur auditeur de la soirée. Max a une petite avance sur laquelle il va tenter de capitaliser sur l'accès. Pardon, je suis totalement sur autre chose, désolé. Ce qui s'est passé. Hakimi doit tirer les coups francs. Ça a été un sujet hier. On en a parlé. C'est appelé Hicham, par le chat. Et François Bayonne qui dit: je vois le Maroc dernier du groupe avec juste un point.
Ah ouais?
Ouais.
Eh ben, on va lui filer le numéro.
Au moins, on sait où il est à Bayonne.
Prends son numéro, on va le filer du coup à Rachid.
Non, bon, comment? Qu'est-ce que j'ai pas?
C'est vrai que le Maroc, ils ont une carte à jouer derrière la Belgique. Il y a une place qui a prise.
Moi, j'aime bien le Canada aussi. Hein.
Non, mais oui, parce que. Oui, mais
très beau maillot d'ailleurs, on parlait des maillots
tout à l'heure. Absolument. Mais quand on regarde
c'est
devant,
simple, c'est...
Ça, hier ça joue contre une Belgique un peu fébrile, mais comme il disait, derrière ça va peut-être pas tenir.
Hein. Ouais, on va voir. On va accueillir Alcine qui nous a appelé au 32-16 et qui est en direct avec nous dans la libre antenne de l'After. Salut Alcine.
Salut messieurs, vous allez bien?
Alcin ou Alcine?
Alcin.
Ouais, parce que j'ai entendu. Hé hey, Adrien, je t'ai entendu gueuler là-bas. Hein. Il dit non, dis Alcin, ça va frérot, je lis Alcine. Alcine, bah Alcin alors. Alcin. Tu nous appelles d'où Alcin?
Mante la jolie.
Oui, 7-8 frère.
Vous connaissez ou pas?
Bah moi je suis de Poissy moi, donc je connais.
Ah, de Poissy, ah, c'est à côté. Poissy,
bien sûr que c'est à côté.
Poissy c'est la famille.
Bah ouais frérot, c'est la famille. FC Mantois, SP, on est là gros.
FC Mantois, exactement.
Oui,
FC Mantois pendant longtemps.
Comment?
J'étais un joueur du FC Mantois pendant pas mal d'années.
C'est un peu la merde d'ailleurs là-bas. Là. Je sais que la mairie, ils n'ont pas fait du bon taf là, avec les clubs.
Ouais, ça va pas là. Ouais. On était en CFA, on est descendu en DF, ça va pas.
Dis-moi pas que c'est pas vrai.
Si. Et on respecte les clubs des Yvelines, s'il te plaît, Torres. Ouais. Tu voulais parler de quoi, Alcin?
Moi, monsieur, je voulais parler de Kylian Mbappé et de l'équipe de France.
Vas-y.
Parce que tout à l'heure, j'entendais déjà Kevin Diaz qui disait que.
Ça commence mal, non?
Il ferait même pas la carrière de Thierry Henry. Mais Kevin Diaz, il a tout faux. Mbappé, c'est un phénomène. Déjà, comme je disais à Max tout à l'heure, si Mbappé gagne la Coupe du Monde et qu'il marque en finale, bah pour moi, il devient automatiquement le plus grand joueur français de l'histoire. Il aura gagné deux Coupes du Monde, il aura marqué dans deux finales à 23 ans. C'est assez exceptionnel. Personne l'aura fait à part lui. Et en plus de ça, il faut savoir qu'il a 29 buts en 60 matchs. C'est exceptionnel. Henry, il a dû Henry, il a dû attendre plus de 100 matchs pour mettre 51 buts. Il va dépasser Giroud, il va dépasser Henry, il va les déclasser. Au Paris Saint-Germain, le petit, il a 190 buts, il a même pas encore 24 ans. J'ai regardé un petit peu Thierry Henry à Arsenal, toute sa carrière, il a mis 228 buts. Mais déjà, les standings de Mbappé aujourd'hui, ils sont exceptionnels. En plus, tout le temps, quasiment tout le temps, on le critique dans la presse, il est vilipendé dans la presse. Le petit, il arrive sur le terrain, il reste stoïque, il met des buts, c'est assez exceptionnel. Là, on a parlé lundi que Benzema, il est pas là, il doit porter l'équipe de France, il doit faire le bonhomme, c'est son équipe. Tout le monde aurait pu avoir les chocottes. Il arrive sur le terrain, première action, on voit qu'il est déterminé, il fait une passe, il marque un but, il est dans l'action du premier but d'Olivier.
Attends, je te coupe parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps et Guillaume, il voulait réagir, vas-y.
Oui, en même temps que de l'équipe de Suisse, je suis également supporter évidemment de l'équipe de France, hein, c'est normal.
Bravo.
Bah, il faut, hein. Et de nation,
faut bien gagner des titres de temps en temps.
Oui, ouais. Et en curling, c'est pas la France qui m'a fait gagner. On est d'accord. Que les choses soient claires. Non, mais attends, on remet les choses au point. Le bobsleigh, c'est pareil. Non, moi, je pense que Mbappé est très bien parti, évidemment, est un fantastique joueur, ça, il n'y a pas de souci. Le problème qu'on a, c'est qu'il a déjà 60 sélections, donc 29 buts. Si on multiplie juste par une règle de 2, facile, 130 sélections à peu près ce que Giroud a, on multiplie par 2, on est à 58. La différence entre Giroud et Mbappé, c'est que Mbappé se sert beaucoup de sa vitesse. On sait qu'à partir de 28-29 ans, la vitesse, elle baisse.
C'est exactement ce que...
Il va falloir qu'il progresse sur d'autres choses. Giroud, il joue actuellement parce qu'il sait faire d'autres choses. Alors, je dis pas qu'il va... Il est
mais
pas
les gars,
que...
pourquoi on compare là? Moi, c'est ça qui...
Mais c'est, non, mais c'est pour ça. Non, mais juste,
c'est sans le dire. Après, mais moi, c'est parce que
le débat, oui. C'est on compare. Donc moi, si tu me demandes de comparer, je compare et je réponds à l'auditeur.
Ouais, je comprends. Ouais.
Et ce que je veux dire, c'est que ça sera deux joueurs fantastiques qui auront marqué l'histoire des Bleus. Je souhaite que Mbappé le dépasse. Ça voudrait dire que l'équipe de France continue à avoir des performances exceptionnelles. C'est pas le problème. Mais ça va être compliqué parce qu'on sait très bien que Mbappé, sur les trois dernières saisons, à chaque fois, il s'est un petit peu blessé aux ischios. C'est compliqué. Donc c'est un vrai sprinter. Il a ça pour lui et il a des problèmes quelquefois dans le petit jeu. Et de la tête, donc c'est plus compliqué pour Giroud de tenir sur le long terme.
Et dans la finition aussi, par moment, il y a tout le match. Enfin, souvent quand il a besoin de plusieurs occasions pour commencer à marquer.
C'est un but toutes les 4 ou 6 occasions. Donc c'est très bien parce qu'au PSG en équipe de France, il en a plein, tant mieux. Il marque beaucoup de buts et voilà.
Merci Alcin d'avoir été avec nous. Je suis désolé, on est grave à la bourre Alcin, mais merci d'avoir été avec nous en tout cas.
Merci messieurs.
Bonne
merci
soirée, prends soin de toi. Et bisous à toi, jolie.
Bonne soirée à toi.
Je vous appellerai après le match de samedi quand tu l'auras mis un doublé Kylian.
Eh ben vas-y, 32-16. Ils attendent Max et Adrien, pas de problème. Avec plaisir.
Dans le chat, ils ont tout là sur l'auditeur. Ils étaient
RMC, l'after, intégrale Coupe du Monde.
La libre antenne.